superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Réveilleurs and shout, boisé sur le slalom, mes zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Salut, c'est Geneviève et Ève. Joignez-nous un dimanche sur deux à partir du 26 septembre de 20h à 21h pour notre émission 10 entre nous. On va vous amener faire un petit tour dans notre nostalgie des années 2014 à 2020.
10 entre nous veut dire 10 années qui nous séparent. Ève a 21 ans et moi j'ai 31 ans. On veut vous partager ce qui nous allumait pendant 7 années de notre vie selon l'âge qu'on avait, notre expérience et la musique qu'on écoutait. Manquez pas ça.
Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à Chiz 94.3 pour Radio Révolution. Wouhou! Allez! Aujourd'hui, on est heureux pourquoi? Parce que on a... OK, j'arrête de taper partout, je vais faire tomber les ordinateurs. On a Tristan Martin. Bonjour Tristan, comment ça va?
Bonjour Yann, comment ça va?
Ça va super bien, ça va super bien. Moi, j'ai du pep aujourd'hui. Je suis content, j'ai bien de l'énergie, j'ai fait un petit sommeil tantôt, j'ai dormi pendant comme 4 heures en plein milieu de la journée et là j'ai top énergie. Toi, ça va-tu bien ta vie?
Moi, je peux pas en dire pareillement au niveau du sommeil, mais moi ça va super bien, mon énergie va bien quand même. Mais...
comment ça? T'as pas de... t'étais occupé cette semaine?
Ah, ouais, quand même pas mal. Je suis pas mal. Je suis en train d'étudier des. Tout plein de traités par rapport à l'Union européenne dans le cadre de mon programme. Ouais, là. Ouais c'est demandant.
Ah ouais, ouais, mais c'est.
C'est quand même souvent complexe là, il nous renvoie à d'autres paragraphes, puis après ça il te renvoie à un autre traité, puis c'est comme plein de couches juridiques qui finalement font quelque chose de relativement simple à comprendre, mais faut comme le lire tout ça pour finir par le comprendre, c'est ça.
C'est dur à comprendre des textes de loi là. Je suis content de pas avoir à faire ça moi dans ma vie. Là. Mais ouais, t'as été à un coloc?
Ouais, un colloque justement sur l'Union européenne. C'était le lancement du livre de Anu Bradford.
OK, je connais pas.
Ici à l'Université Laval, ouais, c'était vraiment intéressant. Ben, Anu Bradford, c'est vraiment une sommité là, en droit international à l'enseigne à Columbia, si je me trompe pas.
Oh, fancy. C'est pas pire.
Ouais. Mais ouais, c'était très intéressant. Son livre parle vraiment de la question si l'Union européenne est une superpuissance au même titre que la Chine ou que les États-Unis en ce moment. Puis j'ai trouvé sa présentation vraiment convaincante dans le fait que c'en est relativement une, peut-être pas au niveau... économique, puis vraiment en influence mondiale, en exportation, en production, etc. Okay. Mais je trouvais ça très intéressant. Elle appelle ça, en fait, une puissance normative.
Normative?
Normative, c'est-à-dire la norme.
OK, fait qu'elle décide de les normes. Elle a comme un contrôle de plus des normes, puis elle dit pas c'est de même ça marche.
C'est pas mal ça, en fait. C'est que faut savoir que l'Union européenne importe énormément de produits de partout dans le monde. C'est un des marchés de consommateurs les plus grands sur la planète. Puis, c'est également un marché qui a des normes très élevées en vertu autant sur le plan environnemental que sur le plan du droit des travailleurs. Ils ont une norme de qualité très élevée dans leurs produits. Puis, ça fait en sorte qu'ils utilise ce levier-là pour un peu dicter les normes des entreprises à l'extérieur de l'Union européenne qui veulent vendre sur le marché européen. Donc,
okay.
Par exemple, ici au Canada, surtout dans les provinces de l'Ouest, en Saskatchewan, on a une énorme production de céréales qui est souvent vendue à l'Italie.
OK. Ouais.
Après la CETA, je pense que... Ouais, la CETA, le nouveau partenariat là, avec l'Europe qu'on a entre le Canada puis l'Europe... après ça, ils ont dit qu'ils allaient arrêter d'acheter le blé canadien si on ne légiférait pas sur les pesticides, sur l'utilisation des pesticides. Fait qu'ils ont une certaine façon, sans avoir des leviers... avec
comme un monopole des normes.
Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment intéressant à plusieurs niveaux de voir tout ce qu'ils peuvent faire avec ça. Pensons juste au Brexit. Là. Les Britanniques, eux autres, dans le fond, c'en était dans les votes de l'Union européenne qui refusaient toujours de mettre des normes, puis sont plus pour une idée de libre marché.
Ouais, ouais.
Sont proches des Américains dans ce sens-là. Puis ils ont toujours voté contre ce genre de loi-là. Puis, ça fait partie des raisons pourquoi ils voulaient sortir de l'Europe pour pouvoir faire leurs propres normes, leurs propres lois. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, 50% des exportations britanniques se dirigent vers l'Europe. Donc, les entreprises s'étant déjà adaptées à ces normes-là dans le passé, n'ont pas changé leur adaptation parce qu'ils veulent continuer à vendre sur le continent. Donc, ce que ça a changé, c'est que ça ne change rien au niveau des normes des entreprises britanniques. Ils continuent dans ces normes-là, qui sont dictées par l'Europe. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ne peuvent plus rien dire contre.
Ah ouais, c'était pas le bon move de leur part d'abord.
Non, c'est ça, parce qu'ils pouvaient quand même tirer les négociations, tirer un peu la couverte de leur côté, comme on dit, puis... peut-être que les normes étaient un peu moins élevées, justement, grâce au fait qu'ils pouvaient avoir une voie démocratique là-dedans, mais c'est ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Fait que il y en a plusieurs qui le regrettent.
Mais c'est quand même pas le moment le mieux choisi pour un Brexit. Là. C'est tout de suite, oh pouf, là, c'est la COVID.
Ouais,
ça a été fait un peu sur un coup de tête. Si je
ben, ça a été quand même vraiment un long processus, le Brexit. Puis le référendum, je pense qu'il n'a pas été à une énorme majorité, là, si je me trompe pas. Mais quand même, c'est sûr que l'Union européenne a un bon nombre de problèmes internes, de crises internes. Il y a une grosse montée de l'euroscepticisme dans plusieurs pays. D'autres mouvements semblables au Brexit. C'est sûr qu'au début des années 2000, ça l'a pas aider l'Union européenne qui ont pris une décision qui est un peu difficile à prendre, c'est-à-dire est-ce qu'on intègre tout de suite les pays de l'Est qui viennent de sortir de l'Union soviétique? Est-ce qu'on les intègre tout de suite même s'ils rencontrent pas nos normes en vertu politique, en vertu de la qualité de leur système démocratique? Puis, dans le fond, en faisant ça, en les intégrant, on va les aider à faire cette transition-là vers des meilleures administrations, des démocraties plus transparentes. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que 20 ans plus tard, là, ça, c'est pas une situation qui est très drôle, surtout en Hongrie dernièrement.
Okay.
C'est
rough.
Le monsieur, là, il est pas très gentil, le président hongrois.
Il est pas très gentil?
Non. C'est simplement qu'il permet vraiment l'emprisonnement de tout plein de monde. Là. Puis c'est il respecte pas l'état de droit, là, en fait.
Ah ouais.
Puis là, c'est sûr que on peut comprendre un peu les fondateurs de l'Union européenne d'être un peu fâchés de ça parce que ça cause des crises qui se répercutent partout sur le continent. Puis. Ce qui est plate, c'est que la structure juridique de l'Union européenne ne permet pas à la Pologne ou à la Hongrie d'être sorti par les autres membres. Parce que pour sortir un autre membre, il faut avoir la majorité, l'unanimité, en fait.
OK.
Donc, excepté, bien sûr, le membre en question qui est accusé de tort démocratique. Mais tu comprendras que, puisqu'ils sont deux pays à avoir des systèmes un peu semblables puis avoir des crises politiques ça, il y en a toujours un qui va protéger l'autre. C'est,
ouais,
ça,
c'est,
qui...
ça, c'est ça que ça fait, hein, le veto.
Effectivement.
Ouais. Mais... ouais,
qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Yann?
Moi, je trouve que... je respecte beaucoup l'Union européenne. Puis je trouve que, tu sais, une confédération, c'est quand même un bon moyen de... pas nécessairement avoir un gros pouvoir central, mais quand même avoir un... d'être capable de se soutenir et d'avoir une économie qui est partagée.
C'est même presque une fédération là, à certains niveaux. Là.
OK.
Ben, c'est que il y a le Parlement européen, puis c'est les citoyens européens qui votent pour le Parlement européen.
Ah, ouais.
C'est un vote qui est direct aux citoyens, puis ça, c'est une caractéristique vraiment de la fédération. Mais quand même, c'est sûr que ça se rapproche également d'une confédération dans le sens où... l'Union européenne, il y a un partage de pouvoir, mais c'est un partage de pouvoir qui respecte toujours la souveraineté des États. Donc, okay. Les États peuvent, dans leurs compétences, passer la grosse majorité de leurs accords et tout ça. Mais il y a quand même de plus en plus un transfert de compétences qui va vers l'Union.
OK, fait que de plus en plus... De centralisation. Mais
c'est pas vraiment une centralisation, justement, parce que...
Ils respectent la souveraineté.
Il y a un respect de la souveraineté, mais c'est aussi que la façon que c'est fait, un, on a le Parlement européen qui légifère, puis ça, c'est directement élu par le citoyen. Puis, en plus de ça, chaque citoyen... élit leur chef d'État, puis leur ministre, etc. Ouais. Et donc, qui ont également une voix sur le plan plus de la prise d'action. Les compétences qui sont mises, c'est pas vraiment dans la vue d'une centralisation du pouvoir, mais plus d'un partage du pouvoir. C'est-à-dire que les pouvoirs exclusif à l'Union européenne, c'est surtout en vertu de l'économie. Puis de faire en sorte qu'il y ait une certaine redistribution entre tous les États, puis qu'il y ait une politique économique qui est commune à travers l'Europe. Puis on parle de plus en plus maintenant même de la défense européenne avec les questions qu'occasionne l'OTAN. Puis en plus, l'OTAN, c'est sûr que... les États-Unis la contrôlent énormément, puis ils ont totalement le droit. C'est eux autres qui la financent presque en totalité là, ouais. par rapport au nombre d'États qui font partie de l'Alliance. Mais c'est ça, il y a vraiment une question de plus en plus à créer une armée européenne. Ce que Macron, d'ailleurs, il a amené sur la place publique là, comme question. Là. Puis, tu sais, c'est quand même pas n'importe qui. Là. C'est le président d'un des plus gros États d'Europe. Là. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Mais sur ce...
une chanson.
Qui dit France dit Brassens.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts.
son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Wouhou, c'était Brassens avec les copains d'abord. Fait que... Ce qu'on a entendu de la toune, c'est que les copains, c'est important. Et c'est important de confédérer les copains dans une union démocratique européenne avec... OK, là, je sais pas où je m'en vais. Le lien...
Je suis content de te voir aujourd'hui, mon copain.
Mon copain. Ah, ben oui, c'est ça ce que ça fait, les copains. Ouais. Mais c'est ça, on parlait pendant la pause d'un sujet quand même très intéressant par rapport à... Quelle est la place... de au niveau politique des industries. On a dit que oui, l'Union européenne, c'est quand même très... C'est un moyen très bien de politique de gérer tout ça. Mais l'économie, ça reste que c'est quand même industriel. On sait plus comme avant. On est rendu avec des corporations internationales. Puis l'Union européenne... De quelle façon elle aide les travailleurs?
Je te dirais que ben, c'est sûr que tout État dans le monde fait pas assez. Là.
C'est sûr.
Mais l'Union européenne est quand même impressionnante dans le sens où déjà il y a une voie démocratique. Puis ben, en fait, c'est que l'Union européenne pallie très bien, équilibre son pouvoir entre la voix des citoyens via l'Europe puis la voix des citoyens via leur État membre de l'Union européenne. Puis, je te dirais que déjà, l'Union européenne, comme je parlais tantôt, c'est une puissance normative, mais autant à l'interne qu'à l'externe. Déjà, dernièrement, là, ça fait quelques mois, il est entré en vigueur un mécanisme européen de filtrage pour les investissements directs étrangers.
Ah, OK.
Donc, si, par exemple, je suis une entreprise chinoise qui ne respecte pas le droit des travailleurs, qui ne respecte pas justement ce qu'on parle par rapport aux industries, puis que je veux acheter, le port de Pirée, par exemple, qui d'ailleurs a été acheté à 51% par Costco, qui est une entreprise chinoise. Mais
Costco est une entreprise chinoise?
Mais non, mais c'est pas le Costco.
Non, non, où on va faire notre épicerie.
C'est un autre Costco, c'est ça.
OK.
Mais c'est ça, il y a un filtrage quand même qui se fait en vertu de tout plein de normes. Puis ça se fait aussi sur le continent européen que l'État européen monte des normes. On a tout entendu parler là, qui ont totalement arrêté les pesticides sur le continent, ce qui est quand même une bonne chose. Puis, tu sais, quand je dis pesticides, je parle pas juste de l'environnement, mais je parle aussi des travailleurs, là, parce que ça fait pas longtemps, mais de plus en plus, là, ils sortent énormément d'études qu'il y a des cas de cancer puis des cas de vision défaillante parce que c'est des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie à se mettre les mains dans les pesticides puis à respirer. Quand on laboure les terres puis que la terre a fait toute la poussière puis qu'on respire cette poussière-là, c'est une poussière qui est super chimique puis qui fait développer des cellules cancéreuses. C'est épouvantable.
Ah oui, c'est l'enfer.
Les agriculteurs sont obligés d'utiliser ce genre d'engrais chimique-là parce que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas compétitifs sur le marché, puis ils sont juste sortis de la partie, puis leur donne rien.
Les pesticides, c'est horrible. Moi, je suis allé planter des arbres cet été, puis il y avait, après les 10 arbres qu'on plante, il y a des pesticides sur certaines boîtes, puis je sais pas si c'est un mythe ou si c'est la réalité ou quelque chose qu'on devrait se soucier, mais il y a certains qui disent... OK, les filles, il faut que vous attendiez 2 ans avant de faire des enfants. Ouais, mais là, c'est peut-être un mythe, c'est ça. Je peux pas le valider, mais il y a cette rumeur-là qui court ou ce fait-là qui court que c'est, avec les pesticides, ça peut causer des problèmes aux enfants. On n'a aucun moyen de se renseigner là-dessus. Fait que là, ils disent tu peux pas faire des enfants, il faut que tu attendes 2 ans parce que tu as touché à des pesticides. Le monde. Il n'y a aucun moyen de valider ça, là, les travailleurs.
Il y a 2 ou 3 ans, là, j'avais suivi une poursuite d'un vieux monsieur qui était sur le bord de mourir, qui poursuivait Monsanto pour, je pense, 40 millions de dollars.
Ah ouais.
Monsanto, qui, en fait, est la première vraiment compagnie à développer un pesticide chimique qu'on peut utiliser là, de manière industrielle. Puis, ils ont eu un brevet, je pense, de 15 ans dessus. Là. C'est ça. Puis lui, il a été pris pour utiliser les produits de Monsanto pendant sa jeunesse. Puis, comme l'étude était assez claire là, que c'était ça la cause de ça. Puis, il y a eu son 40 millions. Là. La cour lui avait donné, il me semble.
Ah ouais.
Ou c'était, ils ont peut-être donné moins, là. Mais quand même, il avait gagné. Puis il me semble que j'avais lu qu'il y avait comme 300 quelques autres cas pareils comme celui-là qui sont en attente pour poursuivre également Monsanto. Là.
Ah ouais?
Ouais.
OK.
Ouais. C'est. Non, mais c'est quelque chose là, pour la santé. Là. Ça m'étonnerait pas.
C'est
là.
Important. Fait que ça, c'est. En Europe, c'est plus facile de mettre des normes comme ça. Puis, plus qu'en Chine.
Ouais, c'est sûr que la voie démocratique à travers les institutions européennes est beaucoup plus puissante qu'en Chine.
Bon, c'est sûr. Là.
En Chine, elle est presque inexistante, là.
Moi, la Chine, Mais, pas mauvaise admiration pour la Chine.
Mais étonnamment, la Chine est tout de même le plus grand investisseur en énergie verte dans le monde depuis les 15 dernières années. Puis, ouais. Mais c'est simplement qu'ils ont perçu qu'ils ont
un marché où est-ce qu'il est.
Là. Ben, c'est ça. Si on dit que les Britanniques ont dominé le monde pendant une centaine d'années avec le charbon, les Américains les ont remplacés avec le pétrole puis les gaz fossiles. Puis c'est simplement qu'en ce moment, on s'en va vers une transition énergétique, vers des énergies plus vertes. Ben, ou pas tout le temps, là. Mais ça dépend de quoi qu'on parle, mais ça reste que ouais, la sûr, Chine va investir vers des énergies du futur, puis c'est dans le but, justement, de suivre un peu ce cours historique-là.
Oui, c'est ça. C'est comme un peu le mouvement vert capitaliste, genre. Que tu vois, les autos électriques, c'est populaire, ou toutes les énergies vertes, ça va être la solution. C'est un marché comme les autres.
Ouais.
Ouais.
Il y a pas juste ça comme crise à s'occuper. Il y a beaucoup de choses interreliées avec justement ce qu'on parlait, le droit des travailleurs.
Oui, c'est ça. Mais je trouve que moi, ça me concerne plus, le droit des travailleurs. J'ai pas assez. Le cadre de mes connaissances est quand même assez très limité au niveau de la crise environnementale. J'ai pas de solution, j'ai pas d'idée comment sauver la crise. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresse surtout dans mes recherches, c'est le droit des travailleurs. Puis. L'abolition du salariat, puis c'est ça qui m'intéresse, mais le côté environnemental, un peu moins.
Veux-tu que je te dise quelque chose qui devrait t'intéresser aussi? C'est non seulement le droit des travailleurs, mais également le droit des capitalistes de s'enrichir comme ça a pu en finir. Il y a surtout en ce moment, avec la révolution technologique dans laquelle on est, c'est complètement fou à quel point ils ont le droit de quasiment tout faire par rapport à nos données sur Internet. Puis en ce moment, l'argent est beaucoup là. Vous regarderez dans les 10 entreprises les plus hautement cotées au monde, il doit en avoir 8 qui sont dans le monde technologique, sans parler des GAFAM qui ont un pouvoir également politique énorme, mais c'est toutes des entreprises justement qui on a peu légiféré là-dessus, puis le monde s'attarde pas beaucoup à ça parce que ça nous rend tellement la vie facile, puis mais c'est...
Ben, nous, ben ça dépend, ça rend la vie facile à qui là?
Ben à beaucoup de gens là.
Ouais, c'est vrai que... Ouais. Puis, en général, tu sais que toute la pyramide, elle monte, ben, ça monte un peu pour tout le monde.
Ouais, hein? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on peut dire que oui, peut-être que l'Amérique puis l'Europe sont ceux qui en profitent le plus, mais ça reste que de plus en plus, il y a de l'Internet en Afrique. Là, puis en Afrique, les endroits où on a des États qui... mettent pas beaucoup de ressources dans l'éducation, puis un jeune qui veut aller s'éduquer, ben il va aller à un petit centre où il y a des ordinateurs qu'il peut prendre, puis qu'il y a l'Internet, puis il va aller écouter des crash courses sur YouTube. Oui, oui. Là, puis...
Mais ça, c'est un sujet qui nous touche quand même, l'éducation. Tu sais, il n'y a pas une seule façon de s'éduquer. Je trouve que l'éducation, c'est juste un reflet de la société dans laquelle tu vis, puis à quel point tu es capable de transformer positivement cette société-là. Selon moi, peu importe où tu vis, tu n'as pas nécessairement à aller voir c'est quoi l'éducation de l'Internet, qu'est-ce que ça te dit. Tu peux, dans ta société, il y a toujours un moyen de s'améliorer en tant que peuple, peu importe les ressources technologiques, peu importe ce qu'il y a. J'ai la profonde conviction que personne, des gens... peu importe où ils sont, sans technologie ou sans quoi que ce soit, peuvent s'éduquer puis s'améliorer en tant que personne. Puis je pense que oui, les technologies, ça aide. Mais l'éducation, en ce moment, c'est vu un peu comme « Ah, c'est l'école, c'est Harvard, c'est les TED Talks. » Mais tu sais, ça n'a pas toujours été ça. Mais ouais, sur ce, on va aller à la pause et on va écouter cette chanson de Magic Down intitulée Will, et nous serons de retour au Shiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Découvrez Run Up River, le tout nouvel album de Renaud McCarthy, incluant l'extrait For a Moment. Ne manquez pas son spectacle le 26 novembre au Grand Théâtre de Québec. L'album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant et les billets sont en vente au grandtheatre.qc.ca.
The following program is a disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Although your mind's made
what to do.
Yeah, c'était Magic Dawn avec la toune Will de leur album Le Cauchemar et le Hot Dog. J'ai rencontré ce band-là. Ben,
ah oui?
J'ai été voir à Montréal. J'étais au Cégep Saint-Laurent. Puis ça, moi, j'aime ça, ce Cégep-là. Il y avait du monde en musique. Il y en avait du monde en musique. C'était vraiment le fun. C'est une école qui est riche au niveau culturel. J'aime vraiment ça. Puis il y avait des bands émergents qui étaient vraiment bons. Puis que je suis content d'avoir le schisme pour les montrer, ces gens qui ont du talent là.
Ouais, c'était très bien.
Ouais. Je m'ennuie un peu de Montréal des fois. Des fois, je trouve que Québec, c'est bien, mais t'as pas de métro. Tu peux pas aller sous la terre pour te promener. Ça prendrait un chemin qui va sous la terre. Entre Lévis et Québec, il me semble, on a besoin de ça. Non, c'est pas vrai.
Ben, en fait, c'est quand même une discussion au niveau politique qui est en ce moment en pleine actualité dans les élections municipales.
Ouais.
Je me rappelle plus du nom du parti, là, mais je sais qu'il y en a deux qui appuient le métro, mais bref.
Ah, oh, attends, le métro?
Ouais.
Le tramway.
Non, je parle du métro.
Il y a un projet métro?
Il y a un projet de métro à plus petite échelle, mais c'est. C'est un couteau un peu à double tranchant, puis c'est parce que, d'une part, le métro, c'est sûr que ça coûte plus cher de façon directe, vu qu'on creuse la terre, puis en plus, Dieu sait qu'à Québec, il y a des côtes partout, puis qu'il faudrait comme creuser creux pour que le métro soit égal partout, tu comprends? Fait que c'est ça qui rend ça un peu difficile. Puis l'autre argument contre le métro aussi, c'est certainement qu'on n'est que quoi, 600 000 à Québec environ. Fait qu'on creuserait un métro, mais pour combien de gens qui vont le prendre à tous les jours? Puis fait qu'il y a un peu cette question-là que Montréal est une beaucoup plus grosse ville qui ont un métro.
Ah oui, c'est ça.
Mais il y a quand même des petites villes là, au Canada qui ont des métros. Là. Si je ne me trompe pas, Calgary, comme un.
Non, il n'y a pas de métro à Calgary.
Il n'y a pas de métro à Calgary.
Ben, attends, je vais checker. Mais c'est vrai qu'il y a. Ben, il y en a un à Toronto, un à Montréal. À Vancouver, il y a SkyTrain.
Mais je pense que. Je trouve une avenue intéressante par rapport au métro. C'est que oui, ça coûte cher pour l'instant, mais même s'il est un peu vide au départ, c'est juste qu'il va se rentabiliser sur une plus longue période de temps. Puis Québec est en pleine croissance, puis ça peut être bien. Puis un autre argument intéressant, c'est que la ville de Québec, c'est quand même une beauté. Là. Pensons
oui, c'est
au,
ça. C'est,
au Vieux-Québec.
C'est une ville historique, puis c'est quasiment... Je serais prêt à dire que c'est une des villes architecturellement... au niveau de l'architecture la plus importante au Canada, tu sais, c'est protégé par un...
Ouais, puis le tramway, c'est ça, c'est que ça prendrait, une place dans le paysage, mais aussi une place dans les infrastructures routières. Donc, ouais. ça enlèverait certaines places aux voitures, ce que je suis pas totalement contre, bien sûr, mais si on veut vraiment comme régler le problème premier qui est les embouchements, ben c'est sûr que c'est peut-être pas une belle avenue. Puis l'autre argument que je trouve intéressant, c'est que les hivers sont particulièrement durs au Québec.
Ouais.
Fait qu'est-ce que tu fais quand il y a des tempêtes de neige? Faut que tu aies déneigé le tramway, puis que...
Ouais, c'est ça.
On paye des employés municipaux pour tout entretenir ça l'hiver. Fait que ça va peut-être, au final, coûter... très cher d'entretien, puis à long terme, les coûts vont à un certain point se croiser. Là. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je suis sûr que ça serait intéressant que vraiment des gens s'y attardent très sérieusement. Puis ça doit être le cas, j'imagine. Là, mais on voit pas ça. Beaucoup d'études par rapport au métro, vu que le tramway, justement.
Puis, des fois, ça peut être aussi surtout des promesses électorales. Ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre, tant le municipal, pour présenter des projets autres que dire « Ah, on est contre la troisième ligne » ou « Ah, on est pour construction de toutes sortes de quatrième ligne, cinquième ligne. »
C'est sûr, mais ils ont quand même une certaine voix là-dedans, c'est sûr.
Oui, c'est sûr, mais...
Ouais.
Fait que là, tu m'as parlé d'une toune tantôt. Là.
Ah oui.
Une toune de Michel Sardou.
Ouais, ouais. Ben là, on parlait d'Europe. Tu voulais que je trouve des chansons européennes. Alors, on peut écouter Vladimir Ilitch de Michel Sardou.
OK. On en parlait après. Je n'avais pas entendu encore, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va sonner. La voici.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés les chemins de l'espoir? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard? Rien n'a changé, les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés. Toi, Vladimir, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répands
Michel. Merci, Michel Sardou, pour cette belle chanson.
Alors, comment tu l'as trouvé?
Ah, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé ça très cool que ça parle de... C'était vraiment le rêve de Lénine qui s'est pas vraiment passé.
Ouais, Michel Sardou, je trouve qu'il y a tellement une voix pour ça, là, pour les tunes qui vont chercher une certaine émotion nostalgique un peu de mouvements comme ça qui ont jamais abouti. On se dit pas fan de léninisme ici à Radio Révolution nécessairement.
Ben,
mais
là, ça dépend. Là.
Mais ouais, ça dépend
pour
dans.
Toi,
ça,
pour moi
ben,
moi
cas,
non, mais.
Ça dépend dans quelle mesure, mais c'est sûr que je trouve que la chanson fait dégager plutôt. Une admiration de l'intention au départ, de l'égalité de tous les hommes, pour reprendre ses propres mots.
Ouais, c'est sûr. C'était ça l'intention au départ, mais ça s'est pas déroulé comme ça, malheureusement.
Ouais. Tu sais Yann, qu'est-ce que ça veut dire le voyage en wagon plombé? Il dit au début de la chanson.
Ouais, j'ai entendu que ça parlait de ça.
En fait, le wagon plombé, c'est une dénomination qui était utilisée dans ce temps-là pour décrire l'immunité de Lénine en termes de diplomatie. C'est-à-dire que plusieurs pays à l'est de la Russie, à l'ouest, pardon, principalement l'Allemagne, protégeait Lénine, puis acceptait, tu sais, il protégeait, puis il donnait des ressources et tout pour écrire ses manifestes.
Okay.
Bien sûr, parce que ils sont voisins de Nicolas II, le roi, le tsar à cette époque. Il voit déjà que Lénine est une possible menace pour un tsar qui est déjà un peu chambranlant, qui est en guerre avec le Japon en même temps, qui se bat sur deux fronts, puis qui est définitivement pas une grosse tête politique, là. Il profitait beaucoup de la vie paisible, d'être monarque riche dans une cité d'or, mais c'est ça, dans le fond, le terme wagon plombé, qui dit quand il dit qu'il a voyagé dans un wagon plombé, ça se réfère justement à ça, en fait. C'est pas un wagon en plomb, c'est une expression qui était utilisée pour dire que Lénine avait comme l'immunité là, au niveau diplomatique.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, c'est cool. Ah, je savais pas ça. C'est une chanson très intéressante, un mouvement très intéressant à s'attarder là-dessus. Puis je trouve que ça sonne bien. Il y a de... C'est de la très bonne musique.
Ouais, c'est...
Et...
Ouais, vas-y.
Ah non, t'allais dire quelque chose aussi.
Ah non, j'allais juste dire que c'est vraiment intéressant, là. Puis c'est avec le violon, tout ça. Là,
ah
c'est...
oui, ben oui. Il y a de l'émotion.
Ouais.
Puis pour... Continuons, on va mettre une chanson de monsieur, un petit monsieur, Gab Bouchard.
Et voici. Oui?
Ouais.
Gab Bouchard. Gab Bouchard qui vient du lac Saint-Jean. J'ai eu la chance d'aller le voir avec ma mère à la salle des...
Ah ouais?
Ouais, aux Îles-de-la-Madeleine. Il était en show cet été, en juillet. Il y a une belle énergie, vraiment.
C'est un rocker.
Vraiment, ouais. C'est un rocker, puis ça se voit, il se défoule sur scène. Ça a l'air vraiment d'une personne intéressante. Moi, ça fait un petit bout que je le suis, là. Je le suivais. Il est de plus en plus populaire, mais je le suivais quand il y avait comme 500 abonnés sur YouTube.
Ah ouais, un OG. T'étais là depuis le début.
Ouais,
non,
ouais.
Mais tu m'avais montré ça. Tu m'avais montré qu'il avait fait comme une série de vidéos sur Facebook.
Oui, c'est tellement drôle.
Ça, je trouve ça tellement drôle. Puis ça met un côté différent à l'artiste. Tu sais, c'est tout, il sonne triste. Puis c'est comme, c'est des chansons d'amour, de peine d'amour. Puis là, il fait des vidéos complètement satiriques. Ouais. Où c'est lui qui se moque un peu de son travail en tant qu'artiste. Ouais. Je trouve ça tellement drôle.
Mais c'est sûr... J'imagine, peut-être aussi, quelque part, en tant qu'artiste, lorsque tu écris tes paroles, si tu sors d'une grosse peine d'amour, ça va peut-être sortir comme ça. Mais peut-être que, justement, lui, il écrit ses chansons comme ça, puis ensuite, il joue, mais le fait qu'il ait mis sa peine d'amour sur papier...
Ça fait que là, il peut faire des trucs qui sont drôles.
C'est genre, en plein ça. C'est ça.
Sortir la mauvaise énergie.
Ah oui, parce que cette chanson-là, quand même, ça bouge. Là. Moi, j'adore la batterie dans cette chanson-là. Ouais. Elle met en lumière les septièmes beaucoup, puis elle met en lumière des belles notes qui font que la tune est le fun à entendre.
Là. Ben ouais, ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça pas pire. Puis tu suivais quand il y avait 500 abonnés sur YouTube?
Ouais, je le suis. Ça fait un méchant bout, je le suis. Là.
Ah oui, puis ça sonnait comment avant, ces tunes?
C'est sûr, c'est peut-être un peu moins travaillé. Là.
Moi, je trouve ça cool des fois quand c'est pas travaillé. Comme...
Ouais,
j'avais fait jouer du Mac DeMarco la semaine passée, mais dans ses débuts, puis dans le temps que ça sonne vraiment garage.
Ouais.
Puis j'aimerais ça voir si Gab Bouchard, c'est un peu la même affaire.
Ben oui, si tu veux, pour terminer l'émission, là, on peut mettre... il y a Journaux qui est quand même... c'est quand même intéressant, ça montre bien son style un peu.
OK.
Je pense que ça doit faire... Ça devait faire peut-être 6-8 ans qu'est sortie cette chanson-là. Là. Il était vraiment jeune. Là. Il devait sortir du secondaire.
Ah ouais? C'est cool. Écoutons ça. Donc, c'est Journaux de Gabriel Bouchard.
Parfait.
As-tu remarqué qu'il n'y a plus de sourire dans les journaux? Il y a juste des articles sales. Ça part. De guns, de bombes, des idiots, ça parle du monde dans marde. Personne de content, ils ont toutes la même face. Si tu ne crois pas, vire les pages. Un accident, deux morts, un char de plus d'un cours à scrap. J'ai chialé, on chiale, mais ça change pas partout. Mais on se bouge pas d'un pouce. On s'en balance, je veux pas savoir si il fait beau en Chine. Shoot-moi l'histoire, une belle histoire, ça va peut-être me faire rire. Salut. Bouge pas d'un pouce. On dirait que c'est plus fort que nous. Toujours faire ça qui est plus facile. Aller au rendez-vous pour penser ne pas faire la file. On est devenu paresseux. Chialer sans bouger ses petites pattes. Non mais quand même, ben qu'il y a le feu. Sérieusement, j'en ai rien à battre.
C'était voilà, monsieur voilà. Gabriel Bouchard avec journaux. Gabriel, il a changé. Là, c'est rendu juste Gab. Avant, c'était Gabriel.
Ouais, c'est fait ça.
Il voulait tasser son vieux matériel un petit peu pour que le monde dise ah, oh, ben, Gab Bouchard, il fait un album, puis il est bon. Mais avant. Mais non, mais en fait, là, je trouve ça quand même bon. Là. Je trouve ça.
Non, c'est. Ouais.
Tu sais, ça délivre là, quand même. Là.
Ouais, définitivement. Puis, il y a une touche peut-être un peu plus légère, humoristique aussi à ses paroles dans cet album-là.
C'est ça. Puis ils parlent de soleil, puis ils disent qu'il n'y a, a pas eu de sommeil depuis mardi. Puis ouais, je trouve ça très, très bon. Puis
il devait être à l'université. Il devait...
Puis d'aller toute la journée au 00 de la bibliothèque,
ouais.
Pavillon Jean-Charles.
Bon enfant.
Puis jamais voir le soleil.
Ouais, ouais, ouais. Il devait étudier les normes européennes.
Ouais, il devrait lire des PDF sur Internet puis rester assis toute la journée.
Ouais, ouais, ouais.
Puis après ça, faire payer 400$ par session puis avoir deux corrections.
400$ par session? Ah, pour un cours? OK.
non, mais il y a des cours de même que, tu sais, des fois, le monde, ça commence à chialer parce que depuis sa distance, ils se disent... Ouais, mais pourquoi moi je paye 400$ puis c'est bien pire qu'avant?
Effectivement, je comprends pas bien même non plus pourquoi les cours sont aussi chers à distance qu'à.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, en même temps, le travail des enseignants est le même.
Ouais, c'est sûr.
Bon, en tout cas, c'est un gros débat qu'on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans.
Mais je pense que
l'université, ça a deux fonctions, c'est recherche, puis c'est aussi éducation. Puis tu sais, il faut quand même financer la recherche d'une façon ou d'une autre, là.
Mais c'est sûr que ce qui est important, c'est d'avoir un retour un peu sur tes acquis. Puis quand tu as des questions qui sont pas bonnes à l'examen, d'avoir certaines explications. Puis c'est de quoi qu'on retrouve moins en ligne qu'en présentiel, je trouve. Mais quoique, il y a quand même des profs qui sont peut-être moins accessibles là-dessus. Là, mais...
Oui, c'est ça. Puis ça dépend toujours de l'enseignant.
Ouais, moi, j'ai un cours, c'est assez bizarre. Lorsque je fais mon quiz, il me permet, le professeur, puis il n'y a aucun professeur à part lui qui fait ça, il me permet de prendre des captures d'écran de mon examen. Puis ensuite, lorsque je reçois ma note puis les questions... Je peux
ouais, contrôle F tout ça.
Je peux aller voir puis aller comparer avec mes captures d'écran, mais c'est parce que c'est ça, les examens, ils nous montrent pas les libellés des questions après l'examen, mais c'est bizarre.
Ouais. Bon, sur ce, on se dit au revoir et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.